C'est parti pour ce nouveau numéro de la Tribune de la Presse ce soir sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, bonsoir. Au micro, Freddy Bikumbi Ignace. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a réuni les membres de sa plateforme politique dite Union Sacrée pour la Nation il y a deux semaines passées en vue d'annoncer son intention de former un gouvernement d'union nationale pouvant contribuer à faire face à la crise sécuritaire, politique et sociale en RDC. Le président de la République a ordonné à son conseiller en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, Kashmir, en vue d'amorcer le pourparler avec la classe politique congolaise, de même avec les forces vives du pays, en vue de trouver une cohésion nationale. Cette option politique divise aussi l'opinion nationale autour du dénouement de la crise de l'Est du pays. Nous en parlons ce soir. Également, dans cette tribune de la presse, nos projecteurs sont braqués sur la Journée internationale de la femme, c'est 8 mars 2025. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème de cette année. Que dire des apports des femmes congolaises dans la résolution du conflit armé à l'est de la RDC? Peut-on oublier la femme congolaise dans la recherche de la cohésion nationale du Congo démocratique? Soit, ont-elles des limites dans ces enjeux politiques pour la RDC? Car la République démocratique du Congo a connu des femmes engagées pour sa stabilité. La parole est aux journalistes pour en parler. Charles Kipingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans la province du Congo central. Bonsoir.
Bonsoir, confrère. Bonsoir à tous les auditeurs.
Madame la reine Muhole Vawere, journaliste et rédactrice en chef adjointe à la radio Mungano de Beni, honore Kivu. Bonsoir, madame.
Bonsoir, Freddy, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi. Merci de m'avoir invité pour la première fois de participer à cette émission Tribune de la Presse.
Et dans ces studios, nous sommes avec Félix Patrick Abeli. Bonsoir.
Bonsoir Freddy, bonsoir à Charles Kipingani, bonsoir également à la concert qui est à Beni.
Vous êtes journaliste indépendant basé ici à Kinshasa. Et pour commencer cette tribune de la presse, c'est avec l'actualité dans votre zone de couverture. Nous allons à Matadi, au Congo central, pour en savoir avec vous, Charles Kipingani.
Je crois que tout le monde a suivi la visite de la première ministre. Il a lancé sa sensibilisation à Kinshasa, mais qu'elle est venue faire aussi ici en province. Elle est venue sensibiliser pour que les Congolais prennent conscience de la solidarité qui doit prévaloir en cette période de guerre. Mais ce qui est curieux, c'est que pendant qu'elle passait son message, la population réclamait autre chose. Ce qui est tout à fait normal parce que l'Ouest ne sent pas la même douleur que nos frères, nos compatriotes de l'Est. La population a réclamé les routes de cet agricole, l'ONATRA qu'on doit relancer, dont les activités sont restées en berne. Vous savez que cette société de portefeuille a réhabilité des quais au niveau du port de Matadi, mais lorsqu'il s'est garé les conteneurs, c'est un autre service qui doit le faire. Donc, on a résolu un problème, mais dont la solution à ces problèmes doit aller ailleurs. Donc, l'ONATRA est en train d'en dire des problèmes pour lesquels l'État doit s'investir résolument parce que c'est ce que la population devait réclamer en lieu et place de se solidariser au message de la première ministre. Donc, par rapport à cette question de réhabilitation des routes, c'est vrai que le gouverneur Grace Bilolo s'est résolument engagé dans cette lancée. On a déjà suivi des lancements des travaux ci et là. Mais il faut encore plus d'efforts, non seulement du gouvernement provincial, mais également avec l'appui du gouvernement central, parce que cette question d'un traité de route demeure pendante et ça fait souffrir la population qui a du mal non seulement à évacuer les produits agricoles, mais aussi à tirer profit de ces produits pour ceux qui doivent les consommer dans nos différents centres ville. Donc la population a réclamé encore les dollars. Donc, vous sentez qu'il n'y avait pas du tout connexion par rapport au message qu'on devait recevoir de la première ministre par rapport à ce que la population réclame. Et comme nous allons y revenir, je crois que c'est une question qui doit attirer l'attention du gouvernement, que les problèmes ne sont pas les mêmes à travers les pays et qu'il faut une attention beaucoup plus particulière par rapport aux communautés.
Rendons-nous à Beni pour l'actualité. Avec vous, la reine Mouhole Vawere.
Ok, merci Freddy. Ville de Beni, l'actualité est dominée d'abord par la suspension de cours dans différentes écoles primaires et secondaires depuis le lundi de la semaine par les syndicats des enseignants du Congo, CIECO, section de Beni, suite à l'assassinat de deux enseignants, dont l'un a été tué le dimanche 2 mars, la nuit, à son domicile, par des hommes armés, et l'autre a été tué le mardi de cette semaine, le matin, d'Asocha, dans un quartier de la ville de Beni, toujours par des hommes porteurs d'armes, de fusils, et les enseignants réclament qu'il y ait une enquête ministérielle pour que les auteurs soient déférés devant la justice et condamnés, mais aussi ils demandent aux autorités locales et provinciales, parce que la ville de Beni, où est installée les institutions provinciales ce dernier temps, de prendre en charge les obsèques des deux enseignants, et les CIECO plaident pour la sécurisation de différents enseignants de la ville. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, les cours n'ont pas encore débuté dans des écoles et les cours débuteront, sauf prévu le lundi 10 mars 2025. Mais aussi, l'actualité est dominée par les cas de banditisme, hein, qui refait surface vraiment à ville de Beni. Il ne passe pas inattendu qu'il y ait des banditismes et des cambriolages dans des habitations civiles. Récemment, le mardi, il y a eu des militaires FARDC qui ont été léchés par la population locale de suite de ces banditismes, comme nous a informé les services de sécurité. Mais aussi, loin de la ville de Beni, c'est à 30 km, c'est au niveau de Mangina, où les bandits armés ont braqué ou pillé plusieurs boutiques au marché central de cette cité au niveau de Mangina, où trois personnes ont été touchées par balles tirées par ces bandits et ont été conduites dans une structure locale. Et le jeudi, il y a eu les conducteurs de moto-taxi de Beni qui ont célébré leur journée instituée localement par les motards de la ville de Beni. Et cette journée est célébrée chaque 6 mars de l'année en mémoire de leurs collègues qui est à l'exercice de leur métier. C'est un peu ça l'actualité qui a dominé cette semaine en ville de Beni.
Et je crois bien qu'à Beni, on s'est souvenu du taxman célèbre Lelele, tué aussi au cours de son exercice. Nous revenons à Kinshasa avec vous, Félix Abeli. Quelle est l'actualité?
Merci beaucoup, Freddy, pour cette nouvelle invitation. Je vais commenter cette situation qui est catastrophique ici à Kinshasa. Vous êtes sans ignorer que j'ai tendance à croire que l'État n'existait pas dans les secteurs du transport en commun. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a un peu récemment une grille tarifaire qui a été mise en place dans les transports en commun, ça semble ne pas être respecté. Et les conducteurs des engins automobiles, les taxis, bus ou les Mercedes D100 et 7, chacun se comporte dans son coin comme un chef avec un prix qui varie selon les clients à un autre. Et entre-temps, on s'est dit qu'il y a une régulation. Les services de transport en commun ne sont pas visibles de là où moi je suis en train de passer, entre-temps constatant cet abus. Mais je voulais aussi placer un mot sur Jean-Marc Kabound, qui est sorti récemment de la prison centrale de Makala. Il est égal à lui-même. L'homme veut en tout cas se maintenir sur la classe politique, sur l'arène politique congolaise. Il veut donc être aussi au devant de la scène. Il a déclaré des choses. On a dû penser que peut-être avec sa libération, il devait être doux. Malheureusement, c'est un temps qui s'est durci contre le pouvoir en place, où il n'est pas d'accord pour le gouvernement d'Union nationale qui est en gestation. Je vis Jean-Marc Kabound qui est contre l'agression de la République démocratique du Congo, qui dénonce des politiques de gouvernance mises en place par les régimes qu'il avait aussi servi, rappelant-le qu'il était premier vice-président de l'Assemblée nationale tout juste au début de la législature de Tshisekedi. Donc, c'est quelqu'un que j'ai vu en train de se repositionner pour les échéances futures.
Merci à vous tous pour cette mise au point sur l'actualité. Alors, peut-on dire que la démocratie en République démocratique du Congo est en péril face à l'agression du Rwanda dans le nord et sud Kivu, aussi avec la présence de militaires ougandais sur le sol congolais? Envie de baisser la tension sociale, voire politique et sécuritaire, le président de la République, Antoine Tshilombo, a annoncé sa démarche politique, celle de vouloir former, dans un délai proche, un gouvernement d'union nationale qui ne vise la cohésion nationale et vers la fin de la crise à l'est du pays. Eh bien, comment est-ce que l'opinion et les médias ont accueilli cette vision politique, Charles Kipingani?
Je crois que au jour d'aujourd'hui, si le président de la République lance l'idée de former un gouvernement d'union nationale, on est en train de naviguer sur une piscine politique. La place de la population n'est toujours pas là. Vous savez, lorsque vous décelez mal les causes, et les conséquences vont démarrer, et malheureusement, on risque de ne pas trouver la solution. La crise que vit les pays aujourd'hui, c'est une crise politicienne. Ce sont les politiques qui tirent les ficelles derrière cette guerre et ces massacres que nous déplorons tous les jours, malheureusement, avec nos compatriotes de l'Est. Vous savez que quand la population n'est associée en rien, sinon que subir et les décisions politiques et les atrocités de guerre, cela doit beaucoup plus nous interpeller. Est-ce que le gouvernement d'union nationale viendrait résoudre le problème? Félix Tshisekedi a son deuxième mandat. Son premier mandat a donné quoi à la population? Et on est au deuxième mandat. On avait promis la réduction des trains de vie des politiques ou des institutions. Où en est-on avec ça? Est-ce théorique ou pratique ou sinon fantaisiste? Donc, c'est toutes ces questions que nous devons nous poser. Mais je crois que si on a du respect envers la population, il faut organiser des tribunes dans chaque coin, même dans les villages. Vous savez, lorsqu'on organise des choses à Kinshasa, on recrute des politiques qui sont logés à Kinshasa, qui ignorent même la réalité de leur village d'origine. Ça frise la confusion par rapport à l'identification des vrais problèmes. Mais je pense, à ce stade ici, le problème n'est pas de former un gouvernement d'union nationale. Il faut faire le sondage, aller dans le Congo profond, identifier le problème, interroger la population de ce qu'elle pense de la gouvernance du pays.
Mais c'est une opportunité.
Et je crois que vous conviendrez avec moi.
C'est une opportunité, ce gouvernement d'union nationale, pour tous les peuples congolais.
Ce n'est pas pour la population dans son ensemble. Quelles sont les aspirations profondes de la population? C'est le pacte social qui a été brisé. On doit y revenir, voir comment associer la population. Tout ce qui se fait sans la population est contre la population. Vous savez la manière dont nous organisons les élections, avec des députés à moitié élus ou sinon parfois mal élus, avec un système électoral qui ne donne pas la vraie légitimité. Et ce sont ces députés-là mal élus ou sinon non élus, entre guillemets, qui doivent décider au nom d'une majorité silencieuse, bien entendu. Alors, il faut associer directement cette population-là, organiser des tribunes, des séminaires, à travers, en commençant par nos villages, j'insiste. C'est là où vous allez recueillir les avis des uns des autres qui peuvent faire en sorte que la voix des Congolais, dans son ensemble, se fasse entendre. Sinon, ça ne sera que les opinions d'un groupe d'individus qui capturent de prendre le pays en otage comme d'habitude, et ça ne va pas résoudre le problème. Le problème, c'est dans la population. Il faut associer cette population. Pas des leaders qui sont en mal de positionnement d'ailleurs, ou qui n'ont aucune crédibilité en termes clairs vis-à-vis de cette population-là.
La reine Muhole Vaouere, comment est-ce qu'on a accueilli cette annonce du président de la République? Il veut en tout cas chercher la solution à la crise qui sévit à l'est du pays à travers ses gouvernements d'union nationale.
Oui, Freddy Bikoumi, vous savez que d'abord, premièrement, l'idée évoquée par les chefs de l'État de la formation du gouvernement de l'Union nationale n'est pas vraiment nouvelle dans l'histoire politique de notre pays. Vous vous souviendrez avec le maréchal Mobutu à Sota, Après le multipartisme, il avait aussi formé le gouvernement de l'Union nationale. Et les résultats étaient quoi? Les résultats étaient au départ avec la guerre de la FDL. Prenons aussi avec Joseph Kabila. Lui aussi, après l'accord de San City, avait aussi formé le gouvernement de l'Union nationale qui avait repris les composantes armées, notamment les MLC de Jean-Pierre Bemba, avec RCD Goma de Azarias Rouperoua, RCD KML avec Mboussa Nyamwisi et RCTN avec Roger Lubala et la.
Donc, le gouvernement d'Union nationale, c'est un problème pour le Congo?
À mon avis, le succès du gouvernement de l'Union nationale tiendrait compte de tous les paramètres de la belligérance, mais aussi associer la population, cette population qui est en train de souffrir avec cette guerre. Il serait mieux de le faire. Ça, c'est mon avis vraiment.
Qu'en dites-vous, Patrick Abili?
Je crois que c'est une démarche politique et politicienne pour les présidents de la République de pouvoir former un gouvernement d'union nationale. À ma connaissance, je ne m'attends pas de grand-chose sur ces gouvernements en termes de résultats parce que ce n'est pas la première fois. Je crois qu'en voulant mettre en place le gouvernement d'union nationale, va tout simplement élargir l'assiette de la famille politique du président de la République. Vous vous rappelez, il y avait FCC Cash juste au début de son mandat, quand ça ne marchait pas, le président de la République a été élu et investi, et par la suite, il a fait une coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Et par la suite, cette coalition a été brisée. Et tout simplement, à la quête de cette solution, le président Félix Tshisekedi a mis en place une nouvelle coalition qu'il a appelée Union Sacrée. Et au sein de cette Union Sacrée, on a élargi les groupes en faisant appel aux forces vives, aux acteurs de la société civile, à certaines forces politiques. Alors, aujourd'hui, envisager de nouveau mettre en place un autre gouvernement appelé d'union nationale, je crois que ça sera une façon de pouvoir récompenser encore certaines personnes qui sont juste à côté de Félix Tshisekedi, parce que quand vous regardez...
Mais vous craignez quoi?
Non, je crains qu'il n'y ait pas de résultats, parce que il faut, pour évoluer, il faut évaluer. Est-ce que le travail pour lequel le gouvernement de l'Union Sacrée a été mis en place a été atteint ou pas? Et par la suite, certes, le contexte est différent. L'Union Sacrée a été mise en place dans un contexte différent de celui-ci où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise avec le groupe rebelle AFC M23. Mais aujourd'hui, il faut d'abord analyser le nez du problème avant de pouvoir penser à un gouvernement de l'Union nationale. Si tous les mécanismes mis en place pour retrouver la paix, il faut d'abord adhérer à l'idée de pouvoir retrouver la paix même.
En fait, l'opinion nationale reste divisée face à cette démarche politique du président de la République. Les opposants, eux, ne cachent même pas leur désaccord à ce processus de former un gouvernement d'union nationale. Je vous prie de suivre un extrait du débat sur Radio Okapi autour de cette question entre l'Union Sacrée qui est au pouvoir et l'opposition politique. Ici, on va suivre Jean-Thierry Monsenepo, cadre du Parti politique et Convention des Congolais Unis, CCU, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation.
Vous savez, le président Tshisekedi, à l'agression étrangère qui menace la souveraineté de la RDC, a pris la décision stratégique de former un gouvernement d'Union Nationale. Cette initiative vise à assembler toutes les forces politiques et sociales autour d'un objectif commun, défendre l'intégrité territoriale et renforcer la résilience nationale, comme dans des grandes crises mondiales où des gouvernements de coalition ont été mis en place. Cette démarche est un acte de patriotisme et de responsabilité pour éviter que les divisions internes ne profitent à l'ennemi. Au-delà de la réponse sécuritaire, le gouvernement qui viendra doit aussi être un levier pour de réformes et une meilleure gouvernance. En associant diverses sensibilités politiques, il permettrait une plus grande transparence, une gestion plus efficace des ressources publiques et une mobilisation accrue des partenaires internationaux. Ceux qui s'opposent à cette dynamique doivent comprendre que l'heure est à l'unité et non aux querelles politiciennes. Face à la guerre et aux défis économiques, l'union nationale n'est pas une option mais une nécessité pour garantir la stabilité et le développement du pays. Le président a rappelé la nécessité de dépasser les querelles politiciennes et les manipulations extérieures. L'opposition qui critique cette initiative doit comprendre que le moment est grave. Il ne s'agit pas d'un partage de postes, mais d'une mobilisation générale pour l'avenir du pays. Ceux qui refusent d'intégrer cette dynamique devront assumer devant l'histoire leur refus de contribuer à une unité nationale dans un moment aussi critique.
C'est un acte patriotique, c'est une opportunité pour la mobilisation nationale, c'est gouvernement d'union nationale. Nous allons aussi écouter l'opposition avec le professeur Faustin Kouakoua, qui est secrétaire général adjoint en charge des provinces du parti politique SID de Martin Fayulu Madidi, parti membre de la coalition Lamuka.
Je disais que le président Fayulu, plus d'une fois, pendant 5 ans, connaissant avec maîtrise cette situation, a appelé à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir faire face à cette situation, comme ça, monsieur vient d'évoquer le cas de Churchill, qu'on se mette ensemble. Quelles étaient les réactions? Avec arrogance, on nous a dit qu'il n'y avait pas de crise au Congo. En nous insultant même, il cherche du travail. Aujourd'hui, les gens-là ont occupé un grand espace de notre pays. Les nouvelles au front ne sont pas bonnes. À côté, il y a une initiative prise par le père spirituel pour essayer de faire face à cette situation et nous mettre ensemble. Mais pourquoi ne pas appuyer cette initiative-là plutôt que de venir créer encore quelque chose qui, en fait, semble être une procédure qui veulent consacrer la partition du pays, que les uns prennent, comme on a connu ça entre 1998 et 2003, avant qu'on aille à San City, cette partition a été, nous avons vécu ça comme ça. D'un côté, l'Est était occupé par justement CNDP et consorts, et le gouvernement du Congo occupait l'Ouest et l'Est, et le Sud, pardon. Et c'est ça que moi j'ai l'impression qu'on voudrait faire. Pourquoi zappe-t-on l'initiative des évêques qui en fait aussi cherchent justement que nous nous mettions ensemble, que nous discutions pour éviter le pire?
Voilà, vous venez d'écouter, même les acteurs politiques ne se mettent pas d'accord sur cette proposition du gouvernement d'union nationale. Patrick Abel.
Oui, ils ne se mettent pas d'accord parce que nous connaissons comment ça s'est toujours terminé dans ces pays. Quand on parle d'une formation du gouvernement, c'est-à-dire il y a de ceux-là qui vont se retrouver en train d'être membres du gouvernement et d'autres ne seront pas nommés. Et ceux qui ne sont pas nommés d'office, ça crée des frustrations. Moi, je crois qu'on doit cerner les nœuds du problème. Je crois que c'est aussi une bonne idée, mais mettre de côté, je crois, je dois paraphraser les secrétaires généraux du parti de Monsieur Fayulu à ces stades.
Faustin Kouakoua.
Voilà, Monsieur Faustin Kouakoua. À l'instar où nous sommes agressés par les Rwandais à travers ces supplétifs de M23 ou Alliance Fleuve Congo, nous devons favoriser les initiatives qui doivent nous ramener à la paix.
Donc pour vous, le gouvernement d'union nationale n'est pas une priorité, n'est-ce pas?
Je pense que ce n'est pas une priorité parce que ça va déboucher sur le partage de gâteaux.
Et
comme
oublier les problèmes à Goma,
les vrais
à Bukavu.
Problèmes, les Goma, Bukavu qui sont occupés. Et du coup, les gens seront plus focus sur les postes. Mais si je pense qu'en ce net moment qu'on va réunir tous les antagonistes, Monsieur Kabila, Monsieur Katumbi, Monsieur Fayulu, Monsieur Tshisekedi, Monsieur Nanga, tous ces mondes-là, parce que ce sont des Congolais comme ils se réclament aussi.
Le vrai peuple, le vrai citoyen sera oublié.
Le vrai citoyen sera oublié. Et quand on se réunit comme ça, on va se parler en face. dire pourquoi vous avez pris cette position contre la République. Et j'estime que on peut trouver cette solution à ces problèmes, parce qu'il y a des milliers de morts, c'est de trop, il faut que cette situation puisse cesser.
Peut-être une différence de point de vue ou de priorité. La reine Muhole Vaweere, vous avez senti, les politiques eux-mêmes ne s'accordent pas sur la question du gouvernement d'union nationale.
Oui, effectivement, les politiques ne s'accordent pas sur la formation du gouvernement du national, parce que ça va permettre au président actuel d'élargir sa plateforme politique, d'élargir ses membres pour la formation de ces gouvernements d'union nationale. Moi, je pense que ce n'est pas une priorité. Mais par contre, le président devrait laisser la place aux démarches des évêques catholiques et le pasteur de l'ECC avec leur pacte social pour voir comment le gouvernement de le pays peut sortir de cette crise. Mais aussi, pourquoi maintenant former le gouvernement de l'Union nationale alors qu'on ne sait pas même les vraies causes de cette crise qui déchire nos provinces et qui tue la crise là, qui laisse que nos populations soient décimées, des milliers de morts, c'est déjà trop. On devait d'abord laisser la place aux démarches des évêques catholiques, aux prêtres de l'ECC, aux pasteurs de l'ECC, pour voir où nous devons aboutir avec cette crise.
Charles Kipingani, on risque d'oublier qu'on est au deuxième mandat et que ce gouvernement d'union nationale n'est pas du tout en faveur de tout le monde.
C'est exactement ça, Freddy, que je voulais dire. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines voix qui s'élèvent. L'opposition, à un certain niveau, essaie aussi d'être claire par rapport à cette question. Et si elle ne veut pas de la formation du gouvernement d'union nationale, il y a une opinion qui se dégage, selon laquelle on doit réfléchir, pardon, de ce qui doit venir être fait en 2028. Parce que lorsque nous allons former le gouvernement d'union nationale avec à sa tête le président Tshisekedi, il faut se dire qu'on a coupé court à un mandat, à un second mandat du président Félix Tshisekedi. Donc on fait, comme on dit en latin, tabula rasa, pour que Tshisekedi revienne en 2028. Je ne suis pas politique, il est congolais, on peut tout arranger, mais je crois qu'on risque de résoudre un problème en voulant créer encore un autre qui va encore diviser les Congolais en 2028, où les gens vont s'entretuer encore, et comme il est de coutume, chaque politicien va regarder midi devant sa porte pour dire non, on n'a fait qu'un mandat, parce que si on s'est partagé le pouvoir, il faut mettre le compteur à zéro pour que les choses recommencent. Et finalement, il y a une autre crise qu'on va encore créer. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel que nous puissions réfléchir objectivement pour que cette démarche ne conduise pas au gouvernement d'union nationale tel que les gens le souhaitent. Ce sont des individus qu'on va mettre autour d'une table qui vont décider à la destinée de tout un peuple. Mais le problème profond, comme je l'ai dit dans ma première intervention, c'est d'aller vers cette population, dans le Congo profond, connaître leurs aspirations. Si la population est unanime vers une option, je pense que les politiques ne va plus contourner l'attention de cette population. Mais lorsque ce sont les politiques qui décident et que la population va toujours dans le sens contraire, et je crois qu'on n'aurait pas résolu le problème. Il y a la crise aujourd'hui, c'est vrai. Mais est-ce que la solution durable est de former un gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'ils ont interrogé la population? Parce que là aussi le problème. Puisque aujourd'hui, on veut retarder, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas le dire maintenant, on veut retarder les élections de 2028, pardon. On veut déjà créer une barrière pour qu'on fasse un retour en arrière. Mais il faut qu'on comprenne que lorsqu'on est en train de diper la population, c'est cette même population qui va encore la sanctionner pour se dire non, vous avez fait ceci, vous devez dégager parce que vous n'avez pas mérité. Et la politique aujourd'hui a échoué, a monté ses limites. C'est vrai qu'il est bon de se mettre autour d'une table, mais qu'on nous dise clairement que nous qui avons déjà travaillé, nous sommes en train de terminer un mandat, par exemple. Ça aurait aussi rassuré à certains opposants, ou sinon à l'ensemble de la population qui pense que si on a échoué, on doit laisser la place à d'autres qui pourront venir faire le mieux. Tous ces jeunes-là,
Freddy, qui adhèrent à des groupes armés, c'est une jeunesse marginalisée, c'est une jeunesse clochardisée par l'homme politique.
Ils allaient être enrôlés dans l'armée.
Mais si on résout le problème de la jeunesse, on résout le problème des Congolais dans son ensemble, je ne pense pas que les rébellions auront encore des gens.
Même le rebelle du M23 n'arrive pas à comprendre la résistance populaire des Congolais à Kanyabayonga, à Lubero, à Goma, à Bukavu qui n'ont pas fui. Et aussi, on n'arrive pas à comprendre la divergence des acteurs politiques selon le représentant de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, Johan Borgstam. La solution à la situation de l'Est de la RDC est politique et non militaire. Et pourtant, l'option de la formation du gouvernement d'union nationale, c'est politique. Que veut le Congolais?
Si la solution est politique, que la communauté internationale ou les responsables de la région, de la sous-région même, facilitent les entretiens entre politiques, que tout le monde mette de l'eau dans son vin et qu'on ne continue pas à financer, parce qu'aujourd'hui, Nanga trouve les armes où? C'est cette même communauté internationale qui souffre les chauds et les froids. Ici, on veut résoudre le problème. La MONUSCO a fait ici combien d'années? Mais ce sont les mêmes militaires face à mission. Donc, il faut que nous créions le problème pour qu'on se dise les politiques parlent un langage clair pour que la population soit en paix. Mais, et non prendre la population en otage avec des calculs qu'on va faire quelque part dans un couloir où la population ne sera informée que du superficiel et que c'est nous qui allons gober les calculs politiciens qui seront conclus là-bas. C'est là où il y a sa cloche. Donc il faut, si la solution est politique, comme on veut le penser, alors que les politiques s'entendent sans nous associer. Mais si on veut nous associer, il faut qu'on accepte que les aspirations du peuple soient présentées sur la table et que cela trouve des solutions au problème. Et c'est là même la solution la plus durable, je pense.
À propos de la question,
Patrick Abili.
Oui, on va dire que la situation ne sera pas seulement politique, elle sera en même temps militaire ou encore diplomatique. Donc il faut aller avec les trois. Si aujourd'hui, par exemple, les M23 et AFC ont réussi à s'emparer des grandes villes de l'Est de la RDC, c'est parce que il a semblé y avoir une certaine légèreté dans la manière d'organiser les choses. Nous avons une armée efficace, mais pourquoi cette armée s'est déculottée devant l'adversaire? C'est quelque chose que je me pose autant de questions. Et pourtant, même s'il faut mener la diplomatie, si aujourd'hui on est en train de se réjouir des sanctions par-ci, par-là, mais à l'interne, il faut avoir une force. Et que cette force-là, il faut que notre armée soit efficace. Nous le savons très bien qu'elle est efficace, mais qu'on mène des réformes. Et vous savez, quand on parle des réformes, il y a tant de matières à faire pour que l'armée revienne en force.
Vous êtes pour plusieurs options. La reine Muhole Vaweere, l'Union européenne estime que la solution pour l'Est de la RDC est politique et non militaire.
L'Union européenne peut avoir raison de dire que cette crise est politique. Je peux dire que si nous demandions l'avis de la société, il y aurait quatre volets. Quatre volets, pourquoi? La réorganisation de l'armée, c'est-à-dire l'idée du chef de l'État d'augmenter $500 au solde des militaires qui sont au front, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais il devrait instituer les services militaires comme un service public de l'État, en accordant l'avantage à tous les Congolais qui ont ce désir de faire l'armée. De même, le même avantage pourrait être un meilleur succès pour notre armée. Et deuxièmement, pour les deuxièmes volets, le nombre de militaires et les grâces dans l'armée. Prenons l'exemple de ici, qui a presque 1 million de militaires. Il y a aussi les États-Unis, la France et d'autres nations africaines qui ont des nombres élevés de militaires. Et une armée qui est forte, qui est organisée, bien structurée, ne peut jamais perdre la guerre. Et prenons l'exemple où le général de Gaulle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait renversé la tendance face à l'Allemagne suite aux alliés russes et africains. Et c'est possible aussi pour la RDC, concernant les nombres élevés de militaires au niveau de la RDC. Si on avait un nombre élevé et une armée bien structurée, formée et forte, on n'allait pas perdre nos différentes provinces entre le mur des ennemis. Mais aussi, il y a aussi autre volet qui est notre pays n'a pas de route. Notre pays n'a pas de route. Et prenons aussi le quatrième volet qui est la fin, il y a les sociales des Congolais. Et si on prenait vraiment à considération les sociales des Congolais, on n'aura pas différents groupes armés dans notre pays. Le problème aussi, c'est les sociales des Congolais. Il faudra que le président puisse voir aussi les sociales des Congolais.
Chers auditeurs, vous nous suivez à Beni, Mupanda Kaliba, sur 92.0 FM. Tournons du côté femmes avec la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour cette année 2025, le monde féministe veut qu'on parle des droits, égalité et autonomisation pour la femme et la fille. La RDC est en insécurité sociale, politique et militaire avec les phénomènes d'M23 et l'armée ougandaise. Que dire de la participation de la femme congolaise pour la paix dans ces pays, du fait que c'est aussi un droit pour elle, en tant que citoyenne de la RDC, de prendre part aux initiatives de résolution des conflits. Comment vous voyez cette option, Madame la Reine Muhole Fawere?
Merci pour ce sujet. Je salue la ministre des Affaires étrangères qui a démontré à la face du monde que la femme est capable.
Thérèse Kayikwamba Wagner.
Thérèse, oui. Que la RDC est agressée par les Rwandais. Et nous sommes en train d'assister à une série de sanctions contre le pays agresseur. C'est le grand apport que la ministre Thérèse, c'est le grand apport de la femme de la RDC à travers la ministre Thérèse pour mettre fin à la crise sécuritaire au niveau de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Ça, c'est un grand apport que la femme a apporté aux yeux du monde que, non, il y a notre pays qui est agressé par le Rwanda. Et après, ça m'est suivi une série de sanctions contre le pays agresseur. C'est un grand apport. Ça, c'est mon point de vue.
Félix.
Oui, la femme congolaise est oubliée par mauvaise foi des hommes politiques congolais. La femme, certes...
Elle est en sous-nombre ou
oui,
elle n'est pas actrice
non,
principale?
Non, la femme n'est pas actrice principale, mais comme vous le savez, la femme congolaise fait face à plusieurs défis pendant que nous savons très bien qu'elle peut aussi apporter la solution à des problèmes que nous rencontrons. Vous savez, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo affecte des milliers de personnes, notamment des femmes. Alors, quand la femme participe activement à la vie nationale de notre pays, il y a lieu de penser à des résultats probants pour la femme. Aujourd'hui, si nous pouvons compter des femmes de la trempe de Thérèse Kayikwamba, il faut quand même les reconnaître, c'est une femme battante.
Il y en avait, hein.
Philomène Omatukuku, voilà. Comme vous venez de les rappeler, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale de la RDC. Il y avait également Marie-Ange Mouchobekwa dans ces pays, au Conseil des droits de l'homme de Genève. Cette dame a laissé aussi ses traces. Nous avons dans ces pays des femmes comme Marie-Josée Ifoku, candidate deux fois à la présidentielle. Les femmes ne sont pas beaucoup dans les instances de prise de décision.
Pour vous, Charles Kipingani, comment est-ce que vous voyez la participation de la femme?
La femme elle-même, lorsqu'il y a des élections, la femme est utilisée juste pour compléter les listes assez souvent, par exemple. Et dans plusieurs démarches qui sont menées dans les pays, la femme est utilisée en dernier plan pour servir soit de marche-pied ou sinon de complément. C'est là où l'homme politique doit essayer de revoir les choses. Et plus loin, quand je vois dans la province du Congo central, il y a cette structure AFEJICO, Association des femmes juristes congolaises, je vois par exemple une dame à Boma, une avocate, Maître Rich Kumbaleng. C'est parmi les femmes qui se battent pour faire valoir les droits des femmes. Mais est-ce que sa voix a été entendue? Est-ce que l'homme politique, ou selon le pouvoir public, se vient dénicher ces femmes qui doivent
conduire le bâton pour faire adhérer à d'autres femmes. Donc, tout ce que nous pensons donner à la femme aujourd'hui, il faut qu'on soit sincère, qu'elle ne mérite pas du tout. On a une femme à la tête du gouvernement. Est-ce qu'on a eu un nombre élevé de femmes ou sinon on veut faire plaisir aux femmes? C'est une question qui fait réfléchir parce que les sensibilisations qu'il y a eu autour de la femme depuis 2006, je regrette d'avoir vu qu'en 2006 on a eu peut-être plus de femmes, plus d'élus qu'en 2011 et proportionnellement en 2018. C'est encore un pesanteur qui fait que la femme a du mal à s'émerger. Donc il faut que nous puissions encore renforcer la sensibilisation, ça c'est l'affaire de tout, pour que la femme comprenne le vrai rôle qu'elle est censée jouer.
Un peu de mots, Charles Kipingani, et ça sera votre conclusion. Que faire pour l'autonomisation de la femme congolaise face à une économie non favorable à la jeunesse congolaise, voire à l'entrepreneuriat congolais? Que faire pour la femme?
Oui, j'ai salué le projet COPA ici, où j'ai vu la COPEMECO, Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, la Fédération du Congo central, en train d'enregistrer des femmes, en train de pousser les femmes, en train de sensibiliser les femmes à l'entrepreneuriat. C'est une bonne chose, ce sont des choses pour lesquelles on jette même des fleurs au président de la République, hein, qui milite pour la masculinité positive. Mais, comme je l'ai dit, il y a des efforts, hein, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a des efforts qui sont fournis de gauche à droite. Mais il faut que la femme prenne conscience de son destin pour que les choses puissent bouger à un certain niveau. Nous voulons tous que la femme émerge. Vous savez, si la femme émerge, la nation peut respirer à un certain niveau.
Patrick Abeli.
Merci beaucoup. Il faut accompagner d'abord les femmes. Au-delà de leur accompagnement, il faut renforcer leur accès à l'éducation, parce que si une femme n'est pas éduquée, ça sera très dommage de pouvoir obtenir des résultats voulus. Il faut renforcer cette autonomisation économique. Ça ne doit pas être un slogan ou une chanson. J'ai comme l'impression que depuis un moment, on veut trop en faire comme slogan. Il faut renforcer cette autonomisation économique. Il faut inclure les femmes dans tous les processus. Il faut faire participer la femme à la gestion de la chose publique. Il faut que la femme elle-même se rende compte qu'elle est partie prenante dans son propre processus pour son autonomisation. Il faut aussi faire participer cette femme à toutes les étapes ou toutes les initiatives tendant à faire à les faire émerger, parce que ça favorise une inclusion au sein de notre société.
Nous terminons avec vous, la reine Muhole Vaouere. Que faire pour l'autonomisation de la femme congolaise face à la réalité en RDC et pourtant à Goma, par exemple, avec l'arrivée du M23, on a pillé le petit commerce des mamans qui supportent les familles?
D'abord, premièrement, on peut dire qu'il faut qu'il y ait renforcement à l'accès à l'éducation de la femme et de la jeune fille, mais aussi faire participer la femme à la gestion des choses publiques. Mais aussi concernant l'économie, j'ai toujours félicité les collectifs des associations féminines de Beni qui sensibilisent les femmes pour leur auto-prise en charge avec la formation de petits métiers comme pâtisserie ou voire même l'élevage, où les gouvernements devraient vraiment relever ces femmes-là pour que ces femmes soient indépendantes, mais aussi les gouvernements doivent favoriser ces femmes pour son émergence. Et mais aussi, les gouvernements doivent aussi accompagner les femmes à participer aux différents dialogues. D'ailleurs, je suis étonnée de voir qu'aucune femme figure dans la délégation de la CECO ou de l'ECC pour voir comment mettre fin à la crise qui se passe dans notre pays. Dans la CECO, il n'y a pas de femmes religieuses qui sont capables de donner une idée conséquente pour mettre fin à la crise de notre pays, ou même dans l'ECC, il n'y a pas de femmes servantes ou de femmes prophétesses qui sont là, qui sont capables de donner une idée convaincante pour la crise à RDC, parce que je sais qu'avec la présence de la femme dans cette délégation, et dans cette délégation, il y aurait des bons résultats, parce que la femme, c'est vraiment parler avec des mots touchants, des mots convaincants qui peuvent même convaincre l'ennemi à déposer les armes et de donner la paix dans notre région.
Nous bouclons la boucle de cette tribune de la presse sur Radio Okapi. Merci de nous avoir écoutés à Beni, Kaliwa, Mupanda et du partout où vous êtes. Charles Kipingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans la province du Congo central. La reine Muhole Wawere, journaliste et rédactrice en chef adjointe à la radio Mungano de Beni au Nord Kivu. Et Félix Patrick Abeli, journaliste indépendant basé ici à Kinshasa, ont pris part à cette production radiophonique. Merci à toute l'équipe Okapi de la tribune de la presse, Guy Maté, Kelly Kouté, sous la supervision de Martin Sebudjangwe. J.C. Ndiala était à la mise en onde. Je suis Freddy Bikumbi Ignace. Bye.